Un nombre assez considérable de personnes devait partir par le Washington, et le pont du petit steamer, destiné à les transporter à bord du grand bâtiment qui se balançait à l'ancre plein de grâce et de majesté, en aval de la noble rivière la Mercy, était encombré de tous les genres de bagages qu'il est possible d'imaginer comme appartenant aux variétés les plus diverses du genre voyageur. On y voyait la dame célibataire, propriétaire d'un mince revenu en 3%, au nez tranchant, veiné de pourpre à son extrémité. Elle partait pour rejoindre un frère marié à New York et mettait évidemment toute sa sollicitude à exporter un perroquet dans ce dernier état de calvitie, poliment appelé mu, un parapluie flasque et détraqué, faible dans ses nervures, en outre orné d'un bout saillant qui apparaissait toujours du côté où l'on s'y attendait le moins et semblait avoir une envie mesurée de happer l'épine dorsale des voisins, comme un remarquable spécimen du progrès des beaux-arts dans la mère patrie. On y voyait plusieurs de ces brillants oiseaux de passage, vulgairement connus sous le nom de voyageurs, dont le plus pesant bagage consistait en un sac de nuit et une canne, et dont le léger dito était composé d'un carnet de poche avec un porte-crayon en argent, véritable protée pouvant se transformer en plume, en canif et très souvent en cure-dent. Ces gentlemen abordèrent le steamer au dernier moment, inspirant à l'esprit des passagers nerveux une gaieté convulsive et extraordinaire par la manière dégagée et pleine d'aisance avec laquelle ils faisaient leurs adieux aux camarades venus pour les voir partir, qui les entouraient et leur parlaient de leur souper et des parties projetées pour les fêtes de Noël et de paris enregistrés pour le commencement du printemps aux courses de Newmarket de l'année prochaine, comme si les naufrages et les dangers qu'on court sur mer, comme si le coulage à fond du Royal George, qui engloutit avec lui présidents et brillants comédiens écossais, qui se réjouissaient de retourner au pays dans lequel ils avaient été si aimés et si admirés, comme si ne jamais atteindre le rivage était des événements qui ne pouvaient leur arriver. Il y avait des vieillards qui tentaient ce long voyage sur un élément qu'ils connaissaient seulement de vue, se rendant à l'appel de la noble lettre d'un digne fils qui les invitait à venir partager les beaux jours qu'il avait eu tant de peine à se procurer. On voyait là de robustes travailleurs irlandais, armés de pioches et de bêches, les meilleures armes pour ouvrir la grande écaille du monde dans ces jours dégénérés. Là se trouvait une famille américaine facile à reconnaître. Un père de famille, occupé à rendre sa face blême un peu plus blême encore, en mâchant le plus fort Cavendish qui a jamais été produit depuis le jour où Sir Raleigh apporta dans sa patrie la plante merveilleuse. Une mère de famille remplie du livre qu'elle a écrit sur les us et coutumes de l'ancien continent, dans lequel elle a complètement écrasé l'infâme, sous la forme d'un brillant, généreux, ardent, mais trop sincère écrivain qui a jeté le gant pour protester contre cet agréable trafic des êtres, nos semblables, qui semble le commerce le plus naturel et le plus digne du monde aux esprits transatlantiques. On y voit, en un mot, tous les individus qui se réunissent habituellement quand un bon vaisseau met à la voile pour la terre du cher frère Jonathan. Mais on n'y voyait pas le comte de Marolles. Non, décidément, pas de comte de Marolles. Il y avait un travailleur irlandais, ayant l'air tout à fait tranquille, qui se tenait complètement à l'écart du reste de ses compatriotes, suffisamment bruyant et plus que suffisamment énergique dans leur conversation remplie d'idiotisme. Il y avait donc cet Irlandais à la contenance paisible, appuyé sur sa bêche et sur sa pioche, qui avait évidemment l'intention de ne se rendre à bord qu'au dernier moment, et un gentleman âgé, en noir, qui avait tout à fait l'apparence d'un ministre méthodiste, et tenait à la main un très petit sac de nuit, mais il n'y avait pas de comte de Marolles, et fait beaucoup plus extraordinaire, il n'y avait pas de Monsieur Peters. Cette dernière circonstance impressionna très désagréablement Auguste Darley. Mais j'ai le regret de dire que la figure du boxeur s'illumina d'un regard de triomphe pendant que les aiguilles de l'horloge sur le quai marquaient 3 heures et que Peters n'avait nullement paru. « Je le savais !» dit-il avec une effusion de joie. « Je savais que l'individu n'était pas à son affaire. Je parierais volontiers mon établissement de Londres contre 6 pence de cuivre qu'il stationne, dans le moment même où je parle, à quelques coins de rue à 1 mile ou plus loin d'ici, faisant des signes à l'un des officiers de police de Liverpool. » Le gentleman en costume noir, debout devant eux, se retourna en entendant cette observation et sourit. Il sourit faiblement, imperceptiblement, mais positivement, il sourit. Le sang du boxeur, qui avait quelque chose de l'impétuosité du sang de Lancastre et qui était renommé pour sa propension à s'échauffer, bouillonna en une minute. « Je vois que vous trouvez ma conversation amusante, vieillard, » dit-il d'un ton très rude. « Je suis descendu ici dans le but de vous mettre en belle humeur parce que j'ai été peiné de vous voir une figure comme si vous reveniez de votre propre enterrement et que l'entrepreneur des pompes funèbres vous harcela pour le paiement de ses droits d'inhumation. » Gus marche lourdement sur le pied de son compagnon pour l'avertir de ne pas faire d'esclandre et s'adressant au gentleman, qui ne paraissait nullement ému des remarques pleines de mépris du boxeur, il lui demande si le bâtiment allait bientôt partir. « Pas avant 5 ou 10 minutes, j'oserai l'affirmer, » répondit-il. « Regardez donc, n'est-ce pas un cercueil que l'on apporte par ici ? J'ai la vue très courte, soyez assez bon pour me dire si c'est un cercueil. » Le boxeur, qui avait le coup d'œil d'un aigle, répliqua que c'était bien décidément un cercueil, ajoutant avec un grognement qu'il connaissait quelqu'un qui pourrait bien y être renfermé sans qu'il s'en suivît un grand dommage pour la société. Le gentleman âgé n'eut pas l'air de faire la moindre attention au bout d'avis donné gratuitement par le gladiateur gaucher, mais s'occupa subitement d'agiter ses doigts dans le voisinage de sa cravate blanche. « Que Dieu me bénisse !» s'écria le boxeur. « Si ce vieux bébé ne joue pas le jeu de Peters et ne parle pas à quelqu'un avec les doigts !» Vraiment, très distingué professeur du noble art de la défense de soi-même, votre assertion n'est-elle pas un peu hasardée ? Il est certain qu'il parle sur ses doigts et ne regarde positivement personne, mais dans tous les cas, il parle à quelqu'un et quelqu'un le regarde. Car de l'autre côté du petit groupe, le travailleur irlandais tient les yeux attentivement fixés sur tous les mouvements du gentleman âgé, dont les doigts forment rapidement 5 ou 6 mots, et Gus Darley, apercevant ce regard, tressaille d'étonnement, car les yeux du travailleur irlandais ressemblent à ceux de M. Peters, l'agent de police. Mais ni le boxeur ni Gus ne devaient faire semblant de voir M. Peters avant que M. Peters ne l'ait reconnu. Ce sont les propres expressions du billet que M. Darley vient, dans le moment même, de mettre dans la poche de son gilet. Aussi, Gus donne-t-il un coup de coude à son compagnon et dirige-t-il son attention sur la blouse et sur le chapeau rabattu sous lesquels l'agent s'était déguisé en lui recommandant vivement de rester tranquille. « Nous ne sommes qu'un homme, après tout, malgré que nous soyons renommés pour nos talents et pour notre coup bien connu de la gauche, qui ressemble au coup de marteau frappé par un facteur ou par un commissaire-priseur. » Et, pour dire l'entière vérité, le boxeur était mécontent. Il ne désirait pas la présence de l'agent muet pour arrêter le comte de Marolles. Il n'avait jamais lu Coriolan et n'avait jamais vu le Romain, ni M. William Macready dans ce rôle. Mais malgré tout, le boxeur eût voulu rentrer chez lui, dans son cher quartier de Drury Lane, pour pouvoir dire à ses admirateurs ébahis « Seul, j'ai fait cela !» Hélas, voici M. Peters et le vieil étranger qui tous les deux s'emparaient de l'affaire. Tandis que des pensées sombres et vindicatives travaillent le cœur noble du gladiateur de Vinegarriard, 4 hommes s'avancent, portant sur leurs épaules le cercueil qui a si vivement attiré l'attention de l'étranger. Ils le transportent à bord du steamer et quelques instants après, un individu aux façons ouvertes et aisées d'un gentleman, âgé d'environ 40 ans, traverse le passage étroit et s'occupe à arranger des colis qui sont en tas, séparés du reste des bagages qui encombraient le pont. De nouveau, les doigts du vieil étranger sont en activité dans la région de sa cravate. L'observateur superficiel aurait simplement pensé qu'ils étaient possédés du tic de tracasser ce bout flottant de mousseline et, cette fois, les doigts de M. Peters télégraphièrent une réponse. « Gentlemen, dit l'étranger, de la manière la plus décidée, en s'adressant à M. Darley et au boxeur, vous serez assez bon pour venir avec moi à bord de ce steamer. Je travaille avec M. Peters dans cette affaire. » « Rappelez-vous que je dois partir pour l'Amérique par ce vaisseau, là-bas, et que vous êtes mes amis, venus avec moi pour me voir embarquer. Allons, gentlemen !» Il n'a pas le temps d'en dire davantage, car la cloche sonne et les derniers traînards, ceux qui veulent jouir des derniers instants qu'ils ont à passer sur la terre ferme, grimpent à bord. Parmi ceux-ci se trouvent le boxeur, Gus et l'étranger, qui se serrent étroitement de près. Le cercueil a été placé au milieu du bâtiment, sur le sommet d'une pile de caisses, et ses contours d'un noir funèbre se dessinent d'une manière tranchée sous le bleu clair du ciel d'automne. L'impression générale parmi les étrangers est de considérer la présence de ce cercueil comme une injure particulière. Elle est tout au moins peu agréable. Du moment de son apparition au milieu d'eux, un changement s'est opéré dans l'humeur de chacun des voyageurs. Ils s'efforcent d'éloigner l'objet de leur esprit, mais en vain. Il existe une horrible fascination dans la forme lugubre et déterminée que toutes les épaisses couvertures jetées dessus ne peuvent dissimuler. Leurs yeux se dirigent malgré eux sur le cercueil, au lieu de regarder s'éloigner Liverpool, dont les clochers et les hautes cheminées, s'abaissant de plus en plus, disparaîtront bientôt complètement. Ils s'intéressent à lui en dépit d'eux-mêmes, ils s'adressent des questions entre eux, interrogent le mécanicien et le purser et le capitaine du steamer, mais ils ne peuvent rien en apprendre, si ce n'est que la personne couchée dans ce cercueil, là, si près d'eux, quoique pourtant à une si grande distance, est celle d'un Américain, gentleman de distinction, qui, étant mort subitement en Angleterre, est retransporté à New York pour être inhumé parmi ses amis dans cette ville. Les passagers mécontents qui doivent partir par le Washington pensent qu'il est très désobligeant pour eux que le gentleman américain de distinction, ils se rappellent que c'est un gentleman de distinction et modifient leur ton en conséquence, n'ait pas été enterré en Angleterre comme tout être raisonnable. Le royaume britannique n'a pas été trouvé assez bon pour lui, suppose-t-il. D'autres passagers, poussant plus loin la question, demandent s'il n'aurait pu être transporté dans sa patrie par quelque autre bâtiment et si, en vérité, il n'aurait pas dû avoir un vaisseau pour lui tout seul au lieu d'impressionner d'une manière fâcheuse et d'attrister les esprits des passagers de première classe. Il regarde presque avec animosité, en faisant ses remarques, du côté du cercueil recouvert qui, pour comble de malheur, n'est pas entièrement caché par les couvertures jetées sur lui, un coin étant découvert et laissant voir le chêne épais et grossièrement travaillé, car ce n'est qu'une bière provisoire et le gentleman de distinction sera placé dans quelque chose de plus convenable à son rang quand il arrivera à sa destination. Il est à observer, et plusieurs l'observent, que le passager a l'air riant, en costume fashionable de deuil et portant le large pardessus dont l'inspiration de Bond Street a récemment doté le monde de Londres, sur son bras, se penche d'un air protecteur sur le cercueil et témoigne pour le gentleman américain de distinction, son unique compagnon de voyage, un attachement qui, rien qu'à considérer sa contenance parfaitement radieuse et la manière dont il s'est rendu maître de sa douleur, serait réellement chose touchante. Maintenant, quoiqu'un grand nombre de questions eussent été faites de tous côtés, on en fit une spécialement pour savoir s'il... Chacun baissait toujours la voix en prononçant ce petit pronom, s'ils ne seraient pas placés à fond de cale aussitôt qu'ils arriveraient à bord du Washington. La réponse à cette question ayant été affirmative, causa une considérable satisfaction à tous les passagers, sauf en vérité à un seul, à un vieux gentleman bourru, qui demanda « Comment faire pour avoir quelque petit objet, si on venait à en avoir besoin dans le voyage, comment le retirer du fond de cale ?» Interrogation à laquelle on répondit d'un ton sévère que les passagers n'avaient pas à s'ingérer de vouloir retirer des objets à fond de cale dans le voyage, et ce qui lui valut en outre les railleries du plus spirituel des voyageurs enjoués, qui insinua que, peut-être, le vieux gentleman n'avait qu'une chemise propre et l'avait placée au fond de sa valise. Maintenant, quoiqu'un grand nombre de questions eussent été faites, comme je l'ai dit, aucune n'eut l'air, cependant, d'être adressé au gentleman aux manières riantes qui ramenait l'Américain de distinction à ses amis, naturellement supposé en savoir plus que personne sur ce sujet. Celui-ci fumait un cigare et, quoique se tenant très près du cercueil, il était la seule personne à bord qui n'eut pas les yeux sur lui, son attention paraissant être particulièrement attirée par la ville de Liverpool qui s'évanouissait dans le lointain. Le boxeur, Guz et l'allié inconnu de M. Peters étaient très rapprochés de ce gentleman, tandis que l'agent lui-même, appuyé sur le bordage du bâtiment, proche, quoique un peu séparé des travailleurs irlandais et des jeunes paysannes aux joues roses, qui, comme passagers de seconde chambre, étaient bellement parqués ensemble et se gardaient de souiller de leur présence la vue ou les vêtements des êtres supérieurs qui étaient destinés à occuper les salons et les fastueuses cabines de 6 pieds de long sur 3 de large, à consommer des pois verts et du lait de vache fraîchement trait tout le long du voyage. Bientôt, le gentleman âgé, d'apparence cléricale mais médiocrement distingué, qui s'était présenté si sommairement à Guz et au boxeur, fit quelques remarques sur la ville de Liverpool à l'ami de belle humeur du noble américain décédé. L'ami de belle humeur retira son cigare de sa bouche, sourit et parla ainsi. Vraiment, c'est une ville florissante, un petit Londres réellement, la capitale en miniature. Vous connaissez très bien Liverpool ? Demanda le compagnon du boxeur. Non, non, pas très bien. Dans le fait, je connais très peu de villes d'Angleterre. Ma visite a été courte. Il y a évidemment de l'américain dans cette remarque, quoiqu'il y ait très peu du frère Jonathan dans ses manières. Il ne semble éprouver aucune privation de n'avoir pas quelque chose à couper en parlant, et il est évident qu'il peut exister pendant 10 minutes sans chiquer ou cracher. Votre visite a été courte, en vérité, et elle a eu une bien triste fin, je le constate avec regret, dit le persévérant étranger, dont toutes les paroles sont respectueusement écoutées par le boxeur et par M. Darley. Une très triste fin, répliqua le gentleman avec le plus gracieux sourire. Mon pauvre ami avait désiré retourner au sein de sa famille et faire les délices de nombreuses soirées près de leur foyer, en les réjouissant par le récit de ses aventures et de ses impressions dans ses voyages de l'intérieur et au dehors de la mère patrie. « Vous ne pouvez imaginer, continua-t-il en s'exprimant à voix très basse, et tandis qu'il parle, laissant errer les yeux de l'étranger au boxeur et du boxeur à Guz, avec un regard qui n'a pas la plus légère ombre d'inquiétude. Vous ne pouvez imaginer l'intérêt que nous prenons, de l'autre côté de l'Atlantique, au moindre événement qui arrive dans la mère patrie. Nous pouvons être là-bas excessivement considérés, excessivement riches, nous pouvons être universellement aimés et respectés, mais je doute positivement, malgré tout cela, dit-il d'un air sentimental, que nous soyons véritablement heureux. Nous soupirons après les ailes de la colombe, ou, pour parler pratiquement, après nos dépenses de voyage, afin de venir ici et d'y demeurer. » Et cependant, comme conclusion, la volonté expresse de votre ami défunt a été d'être enseveli là-bas, demanda l'étranger. Ce fut sa volonté en mourant. Et le triste devoir d'accomplir cette volonté vous fut dévolu, ajouta l'étranger, avec un degré de curiosité et d'intérêt puéril et frivole pour un sujet n'ayant aucun rapport avec l'affaire dont il s'occupait, ce qui déconcerta Guz et fit sensiblement lever le nez au boxeur, qui murmura en même temps en lui-même « Le filou étranger aura bien le temps de gagner l'Amérique pendant que ce farceur est là à minauder et à compter des nettes. »« Oui, ce devoir m'est dévolu, » répliqua le gentleman de belle humeur en présentant son porte-cigare aux 3 amis qui refusèrent les cigares offerts. « Nous étions parents. La cousine germaine de sa mère a épousé mon cousin au second degré. Nous n'étions pas parents très rapprochés, certainement, mais nous étions extrêmement attachés l'un à l'autre. » Ce sera une triste satisfaction pour sa pauvre veuve, et cette pensée me dédommage amplement de tout ce que je puis souffrir. » Il paraissait avoir un air trop charmant et trop dégagé pour un être qui a beaucoup souffert. Mais l'étranger s'inclina gravement, et Guz remarqua à la proue du vaisseau les yeux ardents de M. Peters fixés sur le petit groupe. Quant au boxeur, il était si complètement dégoûté des manières et des façons d'agir de l'étranger qu'il s'abandonna au cours de ses propres pensées en fredonnant un air qui appartenait à ce qu'on appelle généralement une chanson comique. C'était le récit du dernier passage dans la vie d'un humble et infortuné membre de la classe des travailleurs, d'un ramoneur de profession fait par lui-même. Tandis que le gentleman de belle humeur s'entretenait sur ce très mélancolique sujet, l'étranger de Liverpool se hasarda à se rapprocher tout à fait du cercueil et avec une admirable liberté d'esprit exempte de toute préoccupation qui étonna les autres passagers debout non loin de lui, resta, la main nonchalamment posée sur le couvercle en chêne épais, juste au coin où la toile grossière le laissait à découvert. Preuve parlante des sentiments presque outrés, de l'attachement qu'avait le gentleman de belle humeur pour son ami défunt, cette action insignifiante sembla le vexer tout à fait. Ses yeux erraient d'un air inquiet sur la main gantée de noir de l'étranger, et à la fin, quand, dans un moment d'absence d'esprit, celui-ci tira l'épaisse couverture directement sur ce coin du cercueil, son inquiétude atteignit un degré extrême, et retirant précipitamment l'étoffe, il lui donna la disposition qu'elle avait précédemment. « Vous ne désirez pas que ce cercueil soit entièrement couvert ?» dit tranquillement l'étranger. « Oui, non, c'est que... » dit le gentleman de belle humeur avec un certain embarras. « C'est que... je... voyez-vous, il y a une sorte de profanation dans l'approche d'une main étrangère des restes de ceux que nous aimons. » « Alors, dit son interlocuteur, si nous faisions un tour sur le pont, ce voisinage doit être vraiment pénible pour vous. » « Au contraire, répliqua le gentleman de belle humeur, vous me prendrez, je le crois bien, pour un singulier personnage, mais je préfère rester à côté de lui jusqu'au dernier moment. Le cercueil sera placé à fond de cale aussitôt que nous serons à bord du Washington. Alors mon devoir sera accompli et mon esprit sera tranquille. « Vous venez à New York avec nous ? » demanda-t-il. « J'aurai ce plaisir, » répliqua l'étranger. « Et votre ami, votre divertissant ami, » demanda-t-il en jetant un coup d'œil tout à fait arrogant sur le cache-nez bigarré et sur le teint de savon marbré du boxeur qui chantait toujours sotto voce la mélodie ci-dessus mentionnée, ses bras croisés sur la barre d'appui de la banquette sur laquelle il était assis et reposant son menton d'un air de mauvaise humeur sur les manches de son habit. « Non, répliqua l'étranger, mes amis, j'ai regret de le dire, me quitteront dès que je serai à bord. » Au bout de quelques minutes, ils atteignirent le flanc du noble vaisseau qui avait paru du quai de Liverpool comme un point blanc ailé, pas assez gros pour contenir la reine Mab allant visiter les États-Unis, mais qui était d'une dimension égale à celle du navire le Léviathan lorsqu'on arrivait près de lui et qu'on allait monter à son bord par une échelle, laquelle échelle semblait être un sujet de frissons convulsifs et frappait de terreur la dame nerveuse avec le perroquet à la tête déplumée. Tous les passagers, à l'exception du gracieux gentleman au cercueil et de l'étranger, de Gus et du boxeur, de M. Peters qui traînait sur l'arrière, avaient l'air de vouloir tous grimper sur le vaisseau les uns avant les autres. La confusion était considérablement accrue par le ton brusque et peu conciliant avec lequel on n'accéda pas à leurs désirs et qui souleva un degré d'irritation d'autant plus grand que les passagers, n'ayant encore pu monter, regardaient en les poignardant des yeux ceux qui étaient en haut et qui paraissaient très confortablement installés et à sec sur le pont du superbe bâtiment. À la fin, cependant, tout le monde, excepté le petit groupe précité, avait gravi l'échelle. Quelques robustes matelots préparaient de gros câbles pour hisser le cercueil et le gracieux gentleman était occupé à les diriger quand le capitaine du steamer dit à l'étranger de Liverpool qui restait à flâner au bas de l'échelle en ayant M. Peters à côté de lui « Allons donc, monsieur, si vous devez partir par le Washington, on va donner le signal. » Nous allons nous éloigner dès qu'on aura fini cette corvée. » L'étranger de Liverpool, au lieu de se conformer à cette très naturelle injonction, chuchota quelques mots à l'oreille du capitaine, qui prit un air très sérieux en l'écoutant, et s'avançant ensuite vers le gracieux gentleman, très inquiet et très préoccupé de la manière dont on allait hisser le cercueil sur le pont du vaisseau, posa lourdement sa main sur l'épaule de celui-ci et dit « Je demande que le couvercle de ce cercueil soit enlevé avant d'être hissé par ces hommes. » Un changement tel s'opéra sur le visage du gentleman aux aimables manières qu'il n'aurait pu s'en opérer un semblable que sur le visage d'un gentleman qui comprend qu'il joue une partie désespérée et bien convaincu qu'il a complètement perdu. « Mon bon monsieur, dit-il, vous êtes fou. Pas pour la reine d'Angleterre, je ne consentirais à dévisser le couvercle de ce cercueil. » « Je ne pensais pas que cela pût vous causer autant de peine, » dit l'autre tranquillement. « Je doute beaucoup qu'il soit fortement vissé dans tous les cas. Vous avez grandement craint tout à l'heure que la personne couchée dans l'intérieur fût étouffée. Vous avez été terriblement effrayé quand j'ai tiré la toile grossière sur ces incisions faites dans le chêne, ajouta-t-il en montrant le couvercle dans l'angle duquel deux ou trois fentes étaient visibles pour l'œil d'un observateur attentif. Bonté du ciel, cet homme est fou! S'écria le gentleman dont les manières avaient entièrement perdu leur aisance. Cet homme est évidemment fou. C'est trop abominable. Est-ce ainsi que doit être profanée la sainteté de la mort? Devons-nous faire la traversée de l'Atlantique en compagnie d'un fou? Vous n'avez pas à traverser le moins du monde l'Atlantique pour le moment, dit l'étranger de Liverpool. Cet individu n'est pas fou, je vous assure, mais il est un des membres principaux de la police de sûreté de Liverpool et a le pouvoir d'arrêter une personne qui est présumée se trouver à bord de cette embarcation. Il n'y a qu'un seul endroit dans lequel cette personne puisse être cachée. Voici mon mandat pour arrêter Jabez North, autrement Raymond de Marolles, autrement Comte de Marolles. Je sais aussi positivement que je suis moi-même ici, qu'il est caché dans ce cercueil, et je désire que le couvercle soit enlevé. Si je suis dans l'erreur, ce couvercle pourra être immédiatement replacé, et je serai disposé à vous offrir mes excuses les plus empressées pour avoir profané le repos du mort. Allons, Peters. L'agent muet se place à une extrémité du cercueil, tandis que son collègue se tient de l'autre. L'officier de Liverpool était exact dans sa supposition. Le couvercle était seulement maintenu par deux ou trois clous, longs et solides, qui cédèrent au bout de 3 minutes. Les deux agents enlevèrent le couvercle du cercueil, et là, la face colorée, à demi asphyxiée, ayant le désespoir dans ses yeux bleus irrités, les dents serrées de rage furieuse d'être dans l'impuissance d'échapper des griffes de ceux qui le poursuivaient, là, renversé à terre enfin, gisait l'élégant Raymond, comte de Marolles. Ils lui mirent les menottes avant de le soulever du cercueil avec l'assistance du boxeur. Des années après, quand le boxeur, devenu bien vieux, avait coutume de raconter à ses admirateurs et à ses clients, frappés de terreur, l'histoire de cette arrestation, la mémoire semblait lui faire défaut, et il omettait de mentionner soit l'agent de Liverpool, soit notre digne ami M. Peters, comme ayant pris part à l'affaire, mais il la décrivait comme conduite entièrement par lui seul, avec un nombre incalculable de « je vois » et ainsi donc je pense. Et c'est bien ce qu'il fallait faire, je le fais de suite, et autres phrases du même genre. Le comte de Marolles, la chevelure en désordre, le visage livide et les lèvres bleues, assis sur le banc du steamer, ayant les menottes, entre l'agent de Liverpool et M. Peters, renaviguant vers Liverpool, n'était pas un tableau bien agréable à considérer. Le gentleman de belle humeur resta avec le boxeur et M. Darley. On leur avait recommandé de tenir l'œil sur lui, et le boxeur en particulier les tint tous les deux sur lui avec plaisir. Pendant le petit voyage, il n'y eut d'autres paroles prononcées que celles-ci par l'agent de Liverpool, alors qu'il mit d'abord les fers aux poignets blancs et délicats de son prisonnier. « Monsieur de Marolles, dit-il, vous avez déjà essayé une fois cette petite plaisanterie. Voici la seconde occasion, je le sais, où vous avez fait le mort. J'ai à vous avertir que la troisième fois, selon la croyance générale des gens superstitieux, est toujours fatale. »